Le journal présenté par Thomas Larabi.
Bonsoir à toutes et à tous. Malgré les remous politiques en Israël, les États-Unis présenteront bien leur plan de paix israélo-palestinienne à la fin du mois de juin. C'est le département d'État américain qui l'annonce ce soir. Plus tôt dans la journée, Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, a rencontré Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Explication dans ce journal. Nous irons également à Caracas où après l'eau et l'électricité, c'est désormais l'essence qui vient à manquer. Il faut parfois faire la queue une journée entière pour faire le plein dans ce pays où la production de pétrole est en chute libre. Enfin, en France, le prix de l'électricité va grimper de 6% dès samedi, une hausse de 85 euros en moyenne par ménage sur l'année. Nous reviendrons sur les raisons de cette flambée avec notre invité, l'économiste Philippe Chalmin. Les déboires politiques de Benjamin Netanyahou n'y changeront rien. Les États-Unis sont déterminés à dévoiler leur plan de paix israélo-palestinienne à la fin du mois de juin. Après des arrêts au Maroc et en Jordanie, Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, s'est entretenu aujourd'hui avec le premier ministre israélien à Jérusalem. Benjamin Netanyahou, qui après avoir remporté les élections anticipées le 9 avril dernier, n'a pas réussi à former une majorité. Hier, l'Assemblée a voté sa propre dissolution et un nouveau scrutin est annoncé pour la mi-septembre. Mais malgré cette nouvelle échéance électorale, Washington ne dévie pas. Le premier volet économique du plan de paix américain sera bien présenté les 25 et 26 juin prochains à Bahreïn. À Jérusalem, la correspondance d'Étienne Monin.
Cette conférence économique est la première initiative concrète des États-Unis depuis que Jared Kushner travaille sur le deal du siècle voulu par le président pour résoudre le conflit israélo-palestinien. L'idée serait de lever 60 milliards d'euros pour investir en Palestine et dans les pays autour. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont partants. Les Palestiniens, les Russes et les Chinois ont décliné. À Jérusalem, aujourd'hui, le gendre du président a rappelé l'attachement des États-Unis à la sécurité d'Israël. La crise politique sur place n'a pas changé son agenda. Le Premier ministre israélien a même utilisé un incroyable euphémisme après la réunion.
Comme vous le savez, il s'est passé un petit événement hier soir, mais ça ne va pas nous stopper. On va continuer à travailler ensemble. On a eu une réunion formidable et productive qui réaffirme que l'alliance avec les États-Unis n'a jamais été aussi forte.
Pour les Américains, la conférence économique est un premier pas, mais le volet politique n'a toujours pas été présenté. Il est autrement plus délicat et le calendrier n'est pas bon avec les élections en Israël et plus tard la campagne aux États-Unis.
Les explications d'Étienne Monin. Les pénuries se multiplient au Venezuela après l'électricité et l'eau courante. C'est désormais l'essence qui se fait rare. Dans certains états, il faut même attendre des journées entières dans de gigantesques files d'attente pour faire le plein. Et la capitale Caracas, privilégiée jusque-là, commence tout doucement à manquer. Reportage de Benjamin Delisle.
Dans l'une des rares stations-service encore ouvertes du centre de Caracas, Kevin s'apprête à atteindre la pompe. Après un peu plus d'une heure d'attente, il a l'impression que la pénurie d'essence s'empire chaque jour.
C'est la première fois que je fais la queue aussi longtemps. Jusqu'ici, les files d'attente n'étaient pas aussi longues pour prendre de l'essence. C'est préoccupant, très préoccupant, parce que ça s'ajoute aux autres problèmes que nous avons.
Quelques voitures plus loin, Javier relativise. Selon lui, la capitale récupère toute l'essence du pays et c'est la province qui se partage les miettes.
J'arrive de Maracay et de Valencia. Là-bas, tu peux voir sur l'autoroute des files d'attente sur 4 ou 5 kilomètres. Les gens attendent peut-être 8 heures pour faire le plein. Je pense même plus de temps.
Des pénuries qui suivent l'entrée en vigueur d'un embargo américain sur le brut vénézuélien fin avril. Or, le Venezuela utilisait majoritairement les États-Unis pour raffiner son pétrole. Mais pour Javier, les sanctions de Washington ne suffisent pas à expliquer la situation.
Les sanctions, c'est un petit pourcentage du problème. La vérité, c'est qu'on a des personnes au pouvoir depuis 20 ans qui ont récupéré une industrie pétrolière prospère et l'ont complètement détruite.
Effectivement, la production pétrolière n'a pas attendu l'embargo pour sombrer, alors que le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour il y a 10 ans. Ce chiffre est passé sous la barre du million au début du printemps.
En France, l'homme soupçonné d'avoir posé un colis piégé à Lyon vendredi dernier, blessant 13 personnes, reconnaît avoir fait allégeance au groupe État islamique. Il a expliqué vouloir faire monter le vote populiste et raciste avant les élections européennes pour pousser les musulmans à la révolte. Aucune revendication n'a pour le moment été formulée. Des policiers vont passer en correctionnel pour violence policière lors des manifestations de Gilets jaunes. C'est Rémi Hetz, le procureur de la République de Paris, qui l'annonce. En tout, 174 enquêtes visant les forces de l'ordre ont été ouvertes depuis le début du mouvement. 8 ont été confiées à un juge d'instruction. Il s'agit notamment de l'épisode de la blessure à l'œil du leader Jérôme Rodriguez ou encore des violences commises par des policiers dans un Burger King le 1er décembre dernier. Mobilisation sociale, menaces terroristes, les policiers ont été mis à rude épreuve ces derniers mois depuis le début de l'année. 31 fonctionnaires de police ont mis fin à leur jour en France. Un chiffre élevé qui s'explique d'abord par l'accès de cette profession aux armes à feu, mais aussi par les conditions de travail souvent très éprouvantes. Et pour lutter contre le suicide dans la police, le directeur de la police nationale a formulé des propositions, mais elles sont loin de faire l'unanimité, Antoine Marette.
Dans une note à tous les directeurs de service, le directeur général de la police, Éric Morvan, appelle à une forte mobilisation contre le suicide. Et il invite les cadres à organiser, je cite, des temps collectifs de loisirs autour d'un barbecue, d'une sortie sportive ou d'un pique-nique avec les familles des policiers. L'idée, c'est que ces moments de convivialité et de partage vont chasser les idées noires et l'isolement. Dans le même genre, le directeur général de la police veut créer du lien en célébrant les départs à la retraite, les promotions, encore les performances professionnelles dans un cadre convivial pour, je cite, marquer les étapes de la vie professionnelle et la reconnaissance du travail accompli. L'idée derrière cette initiative, c'est que le malaise profond que traverse la police peut être en partie résolu par ces initiatives, un brin cosmétique. La surcharge de travail de ces derniers mois liée aux risques terroristes ou aux manifestations des Gilets jaunes pourrait se résoudre en faisant des barbecues ou des pots. Et c'est bien le problème selon les syndicats. Frédéric Galéa est syndicaliste à Alliance Police Nationale.
Nous, on considère qu'aujourd'hui, le suicide, si on veut vraiment s'attaquer aux racines du mal, il faut agir par la prévention primaire, c'est-à-dire agir sur les risques psychosociaux, en agissant sur tout ce qui est dysfonctionnement en matière d'organisation du travail, rythme de travail, charge de travail, charge émotionnelle, en agissant également sur les conditions de travail, les équipements, les moyens mis à disposition des effectifs, mais également lorsque on constate des dysfonctionnements dans la manière de manager les effectifs, qu'on puisse avoir des réactions immédiates et énergiques à l'encontre de ces pratiques managériales si elles étaient inadaptées.
Et parmi les revendications portées par les syndicats, la possibilité pour les policiers de disposer d'au moins un week-end sur deux de repos, ce qui est loin d'être le cas actuellement.
En pleine colère des Gilets jaunes, le gouvernement avait décidé de repousser cette hausse au printemps. Dès samedi, le prix de l'électricité augmente de 5,9%. 26 millions de foyers sont concernés et devront payer en moyenne 85 euros supplémentaires cette année. Et pour expliquer cette hausse, chacun a son coupable idéal, Léa Gage.
Le gouvernement et EDF se renvoient la balle pour expliquer cette flambée. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, accuse une dérive des coûts de production chez le fournisseur historique. Et de son côté, EDF dénonce une surtaxe de l'électricité. Les taxes, c'est un tiers de la facture. Par exemple, la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, depuis sa création en 2002, elle a augmenté de 650%. Aujourd'hui, elle représente 22,5 euros du mégawattheure. Les taxes s'applique à tous les fournisseurs, mais les fournisseurs privés, eux, peuvent fixer librement leurs prix, alors que les prix d'EDF sont régulés par le pouvoir public. C'est donc le gouvernement, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, qui prend la décision d'augmenter les tarifs de 5,9%. Selon le ministre de la Transition écologique, les coûts salariaux expliquent largement cette hausse. Il pointe aussi la ristourne accordée aux salariés d'EDF, qui ne payent que 10% du prix de l'électricité. Autre dérive, selon le ministre, la gestion du parc nucléaire. Pour lui, les Français financent le renforcement de la sécurité des centrales pour allonger leur durée d'exploitation. Sans compter, ajoute François de Rugy, l'EPR de Flamanville, dont le coût des travaux explose à 11 milliards d'euros. Mais il y a peut-être une autre explication à cette hausse du tarif réglementé, la concurrence sur le marché européen. C'est l'autorité de la concurrence qui s'en inquiète. Depuis 2010, c'est la loi. Les tarifs d'EDF doivent suivre ceux du marché pour ne pas pénaliser les fournisseurs privés. De ce point de vue, l'ouverture à la concurrence alourdit finalement la facture.
Les explications de Léa Gage. Et pour parler avec nous de cette augmentation du prix de l'électricité, notre invité Philippe Chalmin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste spécialisé dans le marché des matières premières. On l'a vu donc, EDF accuse l'État de trop taxer l'électricité. François de Rugy, lui, a vivement réagi. Il estime que ce sont les coûts de production d'EDF qui sont derrière cette hausse de 6%. Est-ce vraiment le cas?
C'est probablement une accusation un peu facile. Je dirais même que, paradoxalement, pendant trop longtemps, on a laissé EDF avoir des coûts de vente de son électricité qui étaient largement insuffisants, non pas tant pour couvrir des coûts de production, puisque au fond, on peut dire que l'essentiel du parc nucléaire français, il est amorti. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment provisionné pour permettre, d'une part, l'entretien de ce parc nucléaire, le renouvellement des tranches, et c'est vrai que les nouvelles générations, les EPR de Flamanville, etc., on voit bien qu'il y a des retards et qu'il y a des coûts beaucoup plus élevés. Donc je dirais que de ce point de vue-là, 15 ans balle au centre.
Pour résumer, selon vous, donc, on ne peut pas à la fois avancer sur le nucléaire, vous parliez tout à l'heure de l'EPR à Flamanville, et vouloir continuer d'avoir une électricité moins chère, en fait. C'est juste pas possible.
De toute manière, il ne faut pas se leurrer. Que nous voulions du nucléaire ou que nous voulions des énergies renouvelables, ce qui paraît tout à fait légitime, et c'est en particulier le choix allemand, eh bien, ce sera une énergie qui sera, et une électricité, qui sera plus chère. Alors, on accepte de payer l'électricité issue du solaire et de l'éolien plus cher parce qu'on se dit c'est la transition énergétique. Le nucléaire a quand même cet avantage d'avoir une trace carbone qui est à peu près nulle, mais d'une manière ou d'une autre, le temps de l'énergie pas chère, qui était, appelons un chat, de l'électricité à partir de charbon, eh bien, ce temps-là est révolu incontestablement pendant trop longtemps. L'électricité en France n'a pas été assez chère et ça a quand même gêné EDF, qui a vécu sur son matelas de centrale nucléaire, sans pouvoir peut-être accumuler suffisamment de ressources pour permettre de les entretenir à temps, ce qui explique d'ailleurs que le parc nucléaire français aujourd'hui soit plus susceptible de connaître des arrêts que ça n'était le cas autrefois.
L'autorité de la concurrence, elle estime, elle, que c'est l'ouverture à la concurrence qui a fait monter les prix. Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai que l'ouverture à la concurrence a fait que l'on a obligé EDF à vendre un quart de l'électricité provenant du parc nucléaire à de nouveaux opérateurs et que ceci a introduit finalement sur le marché français l'existence d'un marché de gros européen avec de fortes tensions, en particulier liées à nos voisins allemands.
Alors, voilà. Ça va être difficile à expliquer aux consommateurs, peut-être qu'en ouvrant à la concurrence, on a finalement tiré les prix vers le haut. C'est pas à ça qu'on s'attendait, évidemment.
Ah, écoutez, il faut toujours faire comprendre, mais on a le même problème sur finalement tous les marchés que l'on ouvre à la concurrence, y compris, par exemple, les marchés agricoles. De dire que soit on laisse à l'État ou à une entreprise publique en situation monopoliste le soin de calculer sur le long terme un prix stable qui est normalement un prix couvrant la réalité des coûts de production plus les frais nécessaires au renouvellement de l'appareil de production. Mais nous avons changé d'air ou de paradigme, comme vous voudrez. Nous sommes en économie libérale et donc un prix, à un moment donné, il est la résultante de la rencontre d'une offre et d'une demande. À certains moments, il est élevé. À d'autres moments, il est faible. Et ça, malheureusement, on ne peut pas, probablement pas, revenir en arrière. Et je dirais que l'Europe que nous avons vue se bâtir sous l'influence notamment de nos amis anglo-saxons ces 20 dernières années, a été une Europe de l'ouverture des marchés et de la concurrence. Il est peut-être un peu tard pour le regretter.
Et alors, le gouvernement a récemment manifesté son intention éventuellement de modifier le mode de calcul des tarifs l'an prochain. Quel serait selon vous un bon mode de calcul ?
Écoutez, je serais cynique. Ce serait de supprimer la décision gouvernementale. Si je vais jusqu'au bout de la logique, ce n'est pas le gouvernement qui fixe le prix de l'essence à la pompe. Alors je suis d'accord que l'électricité, ça a toujours été quelque chose de différent. Je vous rappelle que pendant longtemps d'ailleurs, l'électricité, elle est vécue par les Français comme un service public. Nous avons du mal aujourd'hui à concevoir que cette électricité, c'est une marchandise.
Merci Philippe Chalmin. Je rappelle que vous êtes économiste spécialisé dans le marché des matières premières et vous venez de sortir le rapport Cyclope sur les marchés mondiaux qui traite entre autres de cette problématique de l'électricité. Un rapide coup d'œil sur la météo, temps splendide demain sur tout le pays, à peine quelques tout petits nuages sur la moitié nord dans le courant de l'après-midi. Côté température, comptez 16 à Cabourg pour la minimale, jusqu'à 25 à Perpignan pour la maximale. C'est la fin de ce journal, il vous a été préparé par Caroline Bento et la technique Ursula Andrés.